Dans Néhémie, au chapitre 8, si vous êtes en visite, vous n'êtes pas familier peut-être avec les Saintes Écritures, un placeur peut vous apporter une Bible, tourner dans Néhémie, simplement lever la main, un placeur va vous apporter une Bible, s'il y en a qui en ont besoin. 1, 2. Tu veux que je lève? On a un petit problème avec notre micro ce matin, donc on s'adapte. Est-ce que ça c'est mieux? On est à la 10e prédication dans notre série dans Néhémie. Et un frère me partageait cette semaine que Dieu parle à son cœur, Dieu le bénit à travers la série, mais ce qu'il me disait, c'est « Oh, faudrait que je retourne en arrière pour juste revoir des choses qu'on a vues ensemble, justement, dans Néhémie. » Et donc, je vais vous encourager à le faire. On est rendu dans Néhémie 8. Toute la série est sur le site Internet. Il y a beaucoup de matière dans Néhémie. Et la manière que j'ai approché le texte tout au long de la série, c'est avec cette idée de reconstruction. Maintenant, quand est-ce que le Saint-Esprit décide que c'est le moment de passer à l'action dans votre vie pour reconstruire quelque chose pour la gloire de Dieu? Ça, c'est Dieu qui décide de ça. Alors nous, on est en train de placer des choses, on est en train de vous équiper, de vous donner un outil. Néhémie est là, et j'espère par la grâce de Dieu que vous ne lirez plus Néhémie de la même manière. D'accord? Ça, c'est mon ambition, c'est que par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit, par des choses qu'il clarifie dans ce livre, vous ne lisiez plus Néhémie de la même manière dorénavant. Et donc, si maintenant Dieu est en train de commencer à placer quelque chose sur votre cœur, retournez en arrière, allez simplement lire le livre. Si ça reste encore opaque pour vous, allez écouter les prédications, allez revoir ces éléments-là dans les prochaines semaines. On va vous redonner aussi à l'intérieur du dépliant. J'essaie de faire une espèce de résumé des principes qui ressortent. Quand Dieu place quelque chose devant tes yeux, comment est-ce que tu fais pour savoir que ça vient de Dieu? Comment tu fais pour te préparer dans la prière? Qu'est-ce que tu dois considérer dans la prière? Quand tu décides de passer à l'action, quels sont les obstacles que tu vas rencontrer? Et donc, on va vous les redonner au cours des prochaines semaines à l'intérieur du dépliant. Là où on est rendu dans la série, on arrive dans Néhémie 8 et Néhémie vient d'accomplir la première étape de cette reconstruction, l'étape la plus visible, celle qui avait déclaré au départ, ce qui a été l'élément déclencheur pour lui, c'était l'état de ruine dans lequel était la ville, mais surtout les fortifications, la protection de cette ville-là. Les murs étaient en ruine. Néhémie, lorsqu'il a eu des nouvelles, a été bouleversé par ces nouvelles-là, parce que dans son esprit, ça représentait énormément de choses. Cette dévastation des murs de la ville de Jérusalem représentait une dévastation spirituelle beaucoup plus grande. Ça représentait le témoignage du nom de l'Éternel qui était aussi en ruine, parce qu'Israël devait porter ce témoignage-là. Et les murs de la ville en ruine parlent d'un Dieu qui ne règne pas sur cette ville-là, d'un peuple qui ne marche pas avec son Dieu. Alors, lorsque Néhémie a reçu ces nouvelles-là, les nouvelles de la ville qui était exposée au pillard à tout moment, ça a été quelque chose qui l'a frappé, qui l'a bouleversé. Il a commencé à placer ça dans la prière. Et son premier objectif était d'avoir la permission du roi, parce qu'ils sont sous occupation perse, et donc la permission du roi de partir de la capitale Suse, s'en retourner à Jérusalem pour pouvoir reconstruire les murs de la ville, protéger la ville des brigands, recommencer à donner une dignité à cette ville et rétablir le témoignage, le nom de l'Éternel et le témoignage du nom de l'Éternel sur cette ville. Néhémie a atteint la première étape. En quelques jours, très rapidement, 52 jours, la muraille est reconstruite et c'est à ce moment-là que nous arrivons dans Néhémie chapitre 8. Néhémie a mené à bien le projet que Dieu avait placé sur son cœur. La première phase de son projet, je dirais. Et cela commence à avoir un effet d'entraînement sur le peuple qui va amener un travail beaucoup plus profond. D'accord? Le peuple est déjà derrière Néhémie. On l'a vu dans la reconstruction, le peuple a décidé de le suivre malgré les menaces. Comme je le dis depuis tout à l'heure, les murs de la ville, pour lui, représentaient beaucoup plus que des murs. Et Néhémie veut voir un travail beaucoup plus en profondeur dans la vie du peuple d'Israël. Le succès que Dieu a donné à son projet commence à avoir un effet d'entraînement qui va ouvrir la voie pour un travail en profondeur dans le peuple d'Israël. Et on va lire le passage de Néhémie 8, les versets 1 à 18. Je vous lis ça dans la version seconde. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe ou le docteur de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras, qui était aussi docteur de la loi, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen! Amen! » Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabbetaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla manger et boire pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous des tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. » On va prier ensemble. Père éternel, c'est merveilleux de voir le cœur de ton peuple qui est ainsi disposé, Seigneur. De voir qu'ils s'assemblent comme un seul homme, qu'ils ont soif d'entendre ta parole, Seigneur. Que leurs cœurs sont bouleversés à l'entente de ta loi, en entendant tes prescriptions, Seigneur, tes préceptes, tout ce que tu as demandé de faire, Seigneur, leur cœur est bouleversé. Et combien ils sont réceptifs, Seigneur. Comme c'est beau à voir. C'est fantastique de voir comment tu as utilisé, Seigneur, un homme et quelques hommes comme Néhémie pour partir, Seigneur, une boucle, un cycle, un enchaînement de consécration, de renouveau pour la gloire de ton nom à Jérusalem à cette époque, Seigneur. Père, si nous sommes assemblés ce matin, c'est pour entendre ta parole. C'est pour l'entendre, Seigneur, non pas comme un conte, comme une histoire. C'est pour l'entendre, non pas, Seigneur, comme un récit passé, une vieille histoire empoussiérée, mais c'est pour l'entendre, Seigneur, comme le peuple de Dieu a entendu ta parole ce jour-là. C'est pour entendre ta parole comme la lettre qui a été donnée par Dieu pour le salut de nos âmes, Seigneur. Si nous sommes assemblés ce matin, c'est pour que ton esprit vienne prendre cette parole et l'appliquer dans nos cœurs, Seigneur. Bouleverser, fortifier, édifier nos âmes, Seigneur. Ma prière, Père, est toute simple. Ne permets pas que quelqu'un quitte cette assemblée ce matin. Quitte cette salle ce matin, Seigneur, sans avoir été rencontré par toi, mon Dieu. Et viens faire une œuvre qui dépasse, Seigneur, toutes les heures mises en préparation, toutes les études que moi j'ai faites, Seigneur, une œuvre qui est digne de ton esprit, ô Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Quel texte extraordinaire, et comme je le mentionnais, je vous avoue que pour un pasteur, de lire un passage comme ça, ça tire des larmes, parce que il y a une espèce de connivence qui s'installe ici entre le peuple de Dieu et les chefs, vous voyez. Et je lisais ça, il y a une des premières notes que j'ai écrites lorsque j'étais en train de lire le texte. Puis au début, je fais juste lire le passage, puis je marque des notes, des observations que je fais. Une des choses qui m'a frappé tout de suite, c'est « Ouais, mais c'est pas écrit qu'ils ont prêché. » C'est pas écrit qu'Esdras s'est mis à prêcher. « Suivez Dieu! » C'est pas écrit ça. Non, le peuple a dit « Ouvre la loi, on veut écouter. » Le cœur du peuple a été bouleversé, puis ils ont dû les consoler. Non, non, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Oh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et on voit vraiment qu'il y a une œuvre de l'Esprit au milieu du peuple à ce moment-là. Voyez-vous, Néhémie a mené à bien le projet que Dieu avait placé sur son cœur. Et comme j'ai dit, moi je pense qu'il a mené la première phase. Je pense que Néhémie avait en vue beaucoup plus que des murs à rebâtir. Mais cela commence à avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble du peuple de Dieu. Et je veux déjà juste faire une petite observation. Peut-être que Dieu a placé quelque chose sur ton cœur, un projet sur ton cœur. Et tu as l'impression des fois que c'est petit, c'est pas significatif. Je comprends, les murailles, c'était grand. Mais on a l'impression par moment que Néhémie porte ça seul à bout de bras, et c'est peut-être le cas. Dieu a placé quelque chose sur ton cœur et tu le portes seul dans ton coin. C'est vraiment intéressant de voir à quel point, lorsque Dieu commence à travailler dans un cœur, cela peut avoir un effet d'entraînement. Et ce n'est pas quelque chose de superficiel qui se passe ici. Le peuple va suivre Néhémie pendant ses 12 années et accepter bien des réprimandes et bien des réformes et accepter même de renouveler l'alliance avec le peuple. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Alors ne méprisez pas, prenez ceci comme un encouragement. Dieu a placé quelque chose sur ton cœur, sois fidèle à ça, avance. Peut-être que tu as l'impression que tu es seul à porter ça, peut-être que tu as l'impression que les autres sont plus ou moins en feu pour Christ autour de toi. Ne méprise pas ce que Dieu peut faire pour réveiller les gens autour de toi avec ta simple fidélité à persévérer. D'accord, je parle à ceux ici qui bûchent, qui avancent. La vision est claire. Vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous avez l'impression d'être seul à avancer avec ça. Soyez bien attentifs au passage ce matin. Dieu commence à bouleverser tout le peuple à travers un homme qui a pleuré, qui a prié pendant 4 mois et quelques personnes avec lui. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Le peuple, voyez-vous, a suivi Néhémie dans le projet de reconstruction des murs. Ils ont fait le pas de foi, même si c'est clair qu'il y avait toutes sortes de jeux politiques, puis à différents moments, il y a eu vraiment des moments de découragement. Ils étaient prêts d'abandonner, et ça a pris ce leader-là et les hommes qui étaient autour de lui pour garder le cap, d'accord? Mais tout de même, le peuple a suivi Néhémie dans le projet de reconstruction des murs, et comme la reconstruction est complétée, le cœur du peuple est fortifié. Ce qui est en train de se passer dans leur cœur, ils sont en train de dire, « Boy, Dieu est là! Dieu est là! On a reconstruit les murs, la gang! Il y a quelque chose ici, là! Dieu est présent! » Et le cœur du peuple est de plus en plus disposé à connaître davantage Dieu, à s'approcher plus de Dieu, à venir vers Dieu pour le connaître davantage. Il y a cet effet d'entraînement parce qu'ils ont vu de leurs yeux que Dieu est en train de bénir ce projet et que Dieu a béni le projet de la reconstruction des murs. Dieu vient de les bénir avec la réussite d'un projet. Ils sont prêts maintenant à s'approcher davantage de Dieu. La reconstruction des murs, c'est très matériel, c'est très physique. À la limite, on pourrait, superficiellement, on pourrait dire que ce n'est pas très spirituel. La reconstruction des murs a préparé le terrain pour une reconstruction beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Et tout ceci a commencé par un projet terre à terre. Alors, simplement un autre encouragement aussi. Voyez-vous, Néhémie n'a pas commencé ici. Je m'en allais me déplacer. Néhémie n'a pas commencé son projet en disant, « OK, là, ce qu'on va faire, là, regardez, on est dans une situation où Dieu nous a châtiés. » Si vous connaissez l'histoire d'Israël, vous savez que c'est ça la réalité. Hein? Ils sont en captivité parce que Dieu les a châtiés. Et là, ils ont l'opportunité de revenir. Est-ce que Néhémie n'aurait pas dû commencer en disant « Je vais publier un jeûne ici. On va publier un jeûne et le peuple d'Israël va venir confesser ses péchés et on va commencer par se mettre en règle avec Dieu. Nous allons faire une chasse aux sorcières dans chacune de nos vies pour trouver chacun des péchés dans chacune de nos familles. Et lorsqu'on aura confessé tout ça, on pourra attendre de Dieu la bénédiction de sa part. » Il aurait pu le faire comme ça. Néhémie, c'est un homme d'action. Il dit non, on va commencer par reconstruire les murs. On va rétablir le témoignage de Dieu, puis le reste suivra. Intéressant, hein? Moi, je pense que plusieurs d'entre nous qui sommes beaucoup plus spirituels que Néhémie, si on avait été là, on aurait dit, Néhémie, comment, tu vois bien, il y a de l'opposition, c'est parce qu'il y a des péchés. Il y a des péchés dans nos cœurs, il y a des péchés parmi le peuple. Confessons le péché, puis les ennemis vont s'éloigner. Si Dieu a placé sur votre cœur, je ne sais pas moi, de prendre des vacances en famille. Puis là, la pensée vous vient de dire, « Oui, mais là, il faudrait qu'on commence par faire un culte en famille. » C'est super, faites un culte en famille. Méprisez pas ce que Dieu place sur votre cœur, même des projets simples et terre à terre, comme des petits gestes comme ça. Si Dieu l'a placé sur votre cœur, mettez ça dans la prière et avancez. Et Dieu va pouvoir ouvrir le chemin pour un travail beaucoup plus profond. C'est généralement comme ça que Dieu travaille. C'est très rare que Dieu travaille, que Dieu prenne personne, puis, comme on dit au Québec, la revire bout pour bout, d'accord? Dieu commence tranquillement, puis il commence à faire une œuvre de transformation et de reconstruction. S'il a placé sur votre cœur quelque chose de moins haut et moins spirituel, mais quelque chose de concret qui va être pour sa gloire, avancez avec ça. Avancez avec ça. Faites confiance que Dieu va pouvoir provoquer un travail beaucoup plus profond par la suite. Alors, premièrement, je voudrais qu'on retienne de ce passage, toute reconstruction faite avec Dieu peut ouvrir la voie pour une reconstruction beaucoup plus profonde. Avancez avec le projet que Dieu place devant vous. Voyez-vous, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans le texte ici, et j'ai commencé à le dire. On voit que c'est les chefs qui ont organisé cette journée-là. D'accord? Au début, on lit le passage, verset 1, puis on lit « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » Ils dirent à Esdras, tu as l'impression que c'est uniquement spontané cette affaire-là. Tout d'un coup, l'Église a décidé qu'on se réunit puis on fait une étude biblique. Yannick, tu veux-tu venir ouvrir la Bible, s'il te plaît? Nous, on veut plus de la parole. C'est sûr, je me mets à pleurer si vous faites ça, je vous le dis. Je me mets à pleurer. C'est sûr. On a l'impression que c'est juste ça à ce point-ci. C'est pas si simple que ça. D'accord? Les chefs étaient impliqués dans ça. On le voit au verset 4. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. D'accord? Donc, il y avait une intention. Les chefs avaient préparé ce moment. Ils avaient décidé que c'était le temps de se réunir. Mais il y a vraiment une œuvre spirituelle particulière qui est en train de se faire ici, parce que ce n'est pas une situation. On n'est pas ici avec les prophètes. Voyez-vous Jérémie qui doit aller parler à un peuple qui ne veut pas entendre la parole de Dieu. On n'est pas avec Jean-Baptiste qui est en train de crier « Ma gang de vous voulez rien savoir de Dieu, venez-vous-en, repentez-vous. » Ce n'est pas ça qui se passe ici. Le cœur du peuple de Dieu est disposé favorablement à entendre la parole de Dieu. Et donc, il y a vraiment ce travail conjoint qui se fait où les chefs ont organisé ce moment où on va lire la loi de Dieu, mais le peuple de Dieu est encouragé. Il y a vraiment une disposition particulière. Et le narrateur prend le temps de nous dire ici au verset 1, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. » Ça, c'est dans le texte, d'accord? C'est dans le texte hébraïque, c'est là, c'est présent. Le peuple était uni d'une seule et même intention, entendre la parole de Dieu. Ils ne sont pas allés là gazés, blasés, pas le goût d'entendre ça. Ouais, on a une convocation, on va aller écouter la lecture de la parole. Puis ça a l'air que ça va être long ce matin. Il ne va pas prêcher 45 minutes, 50 minutes le prédicateur. 4 à 6 heures de lecture de la Bible. Comprenez que notre culte personnel, 15 minutes le matin, là. OK. OK. Et c'est ça qui se passe. Il nous est dit que ces gens-là sont restés là lorsqu'ils ont vu Esdras ouvrir le texte. Littéralement, ce qu'il dit, c'est que l'assemblée s'est levée. C'est la parole de Dieu qui est ouverte. C'est Dieu qui a donné ce message-là. Il y a une soif qui est là, qui est une œuvre de Dieu dans le cœur de l'ensemble du peuple. Le narrateur prend le temps de nous dire à deux reprises que tout le monde qui pouvait comprendre la parole de Dieu est présent. Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui étaient en âge de comprendre sont présents pour entendre. En fait, avec le livre de Néhémie, on a un point tournant dans l'histoire d'Israël qui ne quittera plus jamais la Bible. Les Saintes Écritures commencent à occuper une place beaucoup plus centrale dans l'instruction de l'ensemble du peuple de Dieu. Et on voit ici le genre d'attitude qu'on voudrait avoir dans notre cœur chaque matin quand on fait notre culte personnel. Amen? On aimerait ça avoir cette soif-là, hein? C'est-à-dire, oh, rouvrons la parole, puis on va juste écouter, puis se laisser bouleverser comme le peuple va être bouleversé. Mais voyez-vous, il y a vraiment une disposition spéciale. Il y a eu, selon moi, une œuvre de Dieu, une œuvre d'entraînement, un effet d'entraînement où Dieu a placé sur le cœur de Néhémie un projet, sur le cœur de quelques hommes un projet. Ce projet-là a été mené à terme, le peuple a suivi et Dieu continue cette œuvre-là. Et c'est vraiment fantastique à voir. C'est vraiment beau à voir. Le peuple est là, il est attentif. Le narrateur nous prend le temps de nous dire ils étaient attentifs, ils buvaient les paroles. Tellement qu'ils vont être profondément bouleversés aussi. Lorsque le cœur des gens du peuple entendent la parole de Dieu, ils deviennent complètement bouleversés. Alors, premièrement, j'aimerais ça qu'on retienne toute reconstruction faite avec Dieu peut ouvrir la voie à une reconstruction beaucoup plus profonde. Et si Dieu avait placé sur le cœur de Néhémie un projet, Dieu a placé maintenant dans le cœur du peuple d'écouter la parole de Dieu. Dieu peut faire ça dans votre foyer. Dieu peut faire ça autour de vous, Dieu peut faire ça dans l'Église autour de vous, s'il a placé un projet sur votre cœur. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque le peuple de Dieu va entendre la lecture de la loi, son cœur va être complètement bouleversé. Au début, c'est difficile à comprendre un peu. Comment ça se fait qu'ils vont être bouleversés? La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez du passage ce matin, c'est que Dieu se sert de sa parole pour ramener son peuple plus loin. Il y a une œuvre qui a commencé avec Néhémie, avec un leader spirituel. Amen, c'est génial. C'est super bon. Maintenant, on veut aller plus loin. On ne veut pas juste reconstruire des murs. On ne veut pas juste rebâtir sur des ruines physiques et matérielles. On veut rebâtir sur des ruines spirituelles. Dieu se sert de sa parole pour amener son peuple plus loin. Quel que soit le projet qu'il a placé sur votre cœur, Dieu va se servir de sa parole pour amener ce projet qu'il a placé sur votre cœur plus loin. Parce que c'est là que vous allez être bouleversé, parce que c'est là que vous allez être nourri. La parole de Dieu dans ce passage-là confronte, la parole de Dieu console, la parole de Dieu éclaire pour nous faire connaître Dieu davantage. Je répète ça. Dans ce passage, la parole de Dieu confronte, la parole de Dieu console et la parole de Dieu éclaire pour nous amener à connaître Dieu davantage. Regardons comment ça se passe ici. Simplement, ce qu'ils font, c'est qu'Esdras prend, évidemment, l'Ancien Testament. Hein? S'il y avait eu le Nouveau Testament, il y aurait eu tout un autre message. Ça aurait été génial. Prend l'Ancien Testament, commence à lire la loi de Dieu. Et là, il nous est dit dans le passage que le peuple est bouleversé. Regardez au verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Mais il faut se replacer dans le contexte. Il faut se replacer dans le contexte. Israël revient de captivité. Israël a été envoyé en captivité parce qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Dieu leur avait donné sa parole pour qu'ils puissent le connaître et le servir. Et ils s'étaient détournés de Dieu pour adorer des dieux païens. Les dieux dont Isaïe nous parlait dans la lecture que Danny nous a faite tout à l'heure. Moi, je pense que t'es inspiré de Dieu, Danny, ta lecture ce matin. C'est Dieu fait de main d'homme, c'est Dieu de superstition, c'est Dieu qui ne favorise pas une connaissance de Dieu, une vraie démarche vers Dieu, mais c'est Dieu qui présume toutes sortes de superstitions qui ne nourrissent pas l'âme, d'accord? Mais ça, c'est l'histoire d'Israël à ce point-ci. Israël a été envoyé en captivité, déporté. Dieu a permis des invasions par d'autres peuples pour le châtier parce qu'il avait abandonné son Dieu pour vouer un culte à des dieux païens. Et donc, le cœur et la connaissance du peuple de Dieu, de la loi de Dieu, n'est plus là. Dans ce jour-là, lorsqu'Esdras, le docteur de la loi, le docteur du texte de l'Ancien Testament, et encore là, c'était partiel à ce moment-là, plusieurs des prophètes, on ne les avait pas encore, mais commence à lire probablement la loi de Moïse, c'est ça qui nous est dit, le peuple commence à entendre parler des préceptes de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu, entend parler du mont Sinaï, entend parler des bénédictions promises, mais aussi des châtiments annoncés si on s'éloignait de Dieu. Entend parler du genre de relation qu'il devait y avoir. Vous vous rappellerez, si vous êtes avec nous depuis le début dans Néhémie, il n'y a pas si longtemps, on a vu qu'il y avait des gens en Israël qui vendaient leurs frères, n'est-ce pas, qui prenaient des Juifs comme esclaves et qui les vendaient. Et donc, ils sont en train d'entendre ces préceptes qui nous disent comment ça devait se passer dans un peuple qui marche avec Dieu. Et plus ils entendent la lecture de la loi, plus ils réalisent à quel point ils sont pécheurs et à quel point ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. La parole de Dieu est simplement en train de les confronter. C'est ça que ça fait dans nos vies, n'est-ce pas? Si vous lisez les Écritures et que votre marche chrétienne va caïn, chaos, ça va plus ou moins bien, c'est lourd à lire. C'est lourd à lire parce que Dieu est tellement saint, Dieu est tellement bon, je suis tellement pourri, tellement tout croche, tellement en retard, tellement froid, tiède. Et je commence à lire la parole et ça me confronte, ça me frappe constamment. Comme un miroir devant mon cœur, devant mes yeux. Et c'est ça qui est en train de se produire ici. Dieu se sert de sa parole pour amener son peuple plus loin. Mais premièrement, la parole de Dieu va confronter. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire que la parole de Dieu confronte notre cœur, notre vie. Qu'en lisant ses préceptes, en lisant les évangiles avec Jésus, Jésus nous dit, « Oui, mais vous devez chercher premièrement le royaume de Dieu, pas les choses de cette terre. » Ouais. Écoute, la parole est juste en train de te confronter, mon ami. T'as le goût de changer de page. Aimez vos ennemis. Regarde, come on, soyons réalistes. La parole de Dieu est juste en train de te confronter. Ta réaction est cette réaction. Dans leur cas, ils sont bouleversés. Ils sont bouleversés, ils commencent à pleurer. Ils commencent à être profondément troublés. Ils disent, mais nous sommes tellement loin de Dieu. Dieu nous a châtiés dans le passé, mais il va nous châtier encore. Regarde notre état. Regarde où nous sommes. Regarde Néhémie, on vient juste de vivre cette situation où on est en train de vendre nos frères. Nos vies ne sont pas conformes avec ta parole. Et là, il se passe quelque chose de merveilleux. Les Lévites, les enseignants, ceux qui expliquaient, parce qu'ils ont passé littéralement la journée à faire ça. Le mieux que je peux comprendre, d'accord, c'est que la loi était lue d'en avant sur la plateforme, et puis tous ceux qui pouvaient enseigner se promenaient parmi le peuple. Vous comprenez qu'ils n'étaient pas 300-400 avec un micro puis tout le kit, hein? Alors, tous ceux qui étaient en mesure d'expliquer la loi se promenaient parmi le peuple, c'est le mieux que je peux comprendre, et expliquaient ces choses pour que le peuple puisse vraiment comprendre. Et là, les enseignants doivent commencer à expliquer c'est quoi l'alliance qu'on a faite. Nous avons fait une alliance avec un Dieu qui nous aime. Dieu nous accueille dans sa présence. C'est vrai que Dieu est saint, c'est vrai que Dieu est grand. Mais cette journée aujourd'hui, c'est une journée pour célébrer l'Éternel qui vous accueille. Pour célébrer l'Éternel qui a fait une alliance avec vous. Dieu vous a sorti d'Égypte et vous êtes son peuple. Tout ce qu'il demande de votre part, c'est la repentance. C'est pas le temps d'être dans les larmes. C'est pas le temps d'être dans la dévastation. C'est le temps de jouir de cette alliance avec notre Dieu. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire ici. Et une des choses que ça éclairait dans ma lecture du texte, quand je prenais mes notes encore, ils font une déclaration assez forte, hein? Néhémie puis les scribes disent « Ce jour est consacré à l'Éternel, c'est pas le temps de brailler, les copains. C'est le temps de se réjouir. » Oh! Là, je me suis pris une petite note, j'ai dit « Attends un petit peu, est-ce que c'est toujours comme ça? » J'avais pas remarqué vraiment à ce point-là. Quand on consacre un jour à l'Éternel, c'est un temps de réjouissance? Essentiellement, oui. C'est vrai que lorsqu'on pense à un jour qu'on consacre à Dieu, on se dit « Je vais aller m'approcher du Dieu trois fois saint. » Dans notre cas, on comprend la Trinité, puis je vais m'approcher de ce Dieu saint, de ce Dieu juste. Et il serait tentant pour nous, ce serait tentant pour nous de dire, « Misérable que je suis, moi qui suis un pécheur, je m'approche du Dieu saint. » Je vous invite à faire une étude dans l'Ancien Testament pour aller voir quelles sont les circonstances et les sentiments à propos lorsque Israël fêtait l'Éternel. Par exemple, dans la fête qu'on va voir ensemble, c'est la fête des tentes ou la fête des cabanes ou la fête des tabernacles, selon. Dans cette fête-là, qui durait 8 jours, il y avait une journée qui était consacrée, la deuxième journée, à confesser nos péchés. Et donc, c'est approprié, si je veux m'approcher de Dieu, de voir que je suis un pécheur. Mais tout le reste du temps, c'est la fiesta, les amis. Parce qu'on fête Dieu! On fête le Dieu qui nous a accueillis. On fête le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui a déposé ses regards sur nous. Alors, je fais une parenthèse. Si votre vision de venir à l'Église, si votre vision de vous approcher de Dieu est constamment de venir avec un cœur contrit, un cœur abattu, parce que vous venez dans la présence du Dieu trois fois saint et que vous ne décollez pas de là, c'est le temps que vous relisiez l'Évangile, les copains. C'est le temps que vous retourniez à la croix. Il y a un moment pour pleurer, puis après ça, il y a plein de moments pour se réjouir. Il y a un temps pour se repentir, et après ça, il y a plein de moments pour être dans la joie, dans la grâce, parce que l'Évangile de Jésus-Christ, c'est pas un message de tristesse, c'est un message de joie, d'accueil et de bénédiction. Amen. Et c'est ça la vie chrétienne. Si votre vie chrétienne est morne, triste et fade, mais repentez-vous, puis saisissez l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la joie, c'est la grâce, c'est l'accueil de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est le regard favorable de mon Père sur moi. Chaque fois que je me repens, tout ce qu'il veut, c'est ça. Et puis il me dit, viens mon fils, je t'aime, je veux te bénir. Vraiment intéressant. Alors, le peuple est là, et il est confronté par la parole de Dieu, et les enseignants doivent expliquer la parole de Dieu, parce qu'autrement, le peuple risque de transformer une journée de réjouissance en une journée de deuil, ne réalisant pas. Voyez-vous ce qui se serait passé si Israël était resté dans la tristesse constamment? Ils auraient oublié la grâce. Et si dans ta vie chrétienne, ta vie n'est composée que de tristesse et de culpabilité, c'est peut-être que tu n'es pas chrétien, ou c'est certainement que tu as oublié la grâce. C'est certainement que tu as oublié la grâce. L'histoire de la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, c'est une histoire de grâce. C'est une histoire d'amour, une histoire d'appel à la repentance, c'est vrai, mais une histoire de grâce et une histoire d'amour. La parole de Dieu confronte, la parole de Dieu console, la parole de Dieu éclaire et nous fait connaître Dieu davantage. Et à ce moment-là, Israël va redécouvrir une fête qu'ils ont perdue de vue, probablement qu'ils la pratiquaient, mais de manière vraiment, vraiment limitée. Et en lisant la loi, ils redécouvrent cette fête. Il faut que je l'explique parce qu'il y a une perle dans cette portion-là du texte, c'est vraiment important. Israël devait fêter à la période des moissons. La fête qu'on appelait la fête des tentes, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des cabanes, ou des tabernacles, qui sont à peu près tous des synonymes. C'était une fête assez étrange, c'était très, très graphique, très visuel, comme on l'a lu ici. Israël devait, à ce moment-là, construire des tentes sur le toit de ta maison, en avant de chez vous, dans ta cour. Les enfants devaient triper complètement, vous comprenez? Pendant une semaine, on sort la pop-tente, puis on s'en va vivre dans une tente, les enfants. Cette fête-là visait deux choses. Premièrement, célébrer la moisson, l'abondance. Mais en même temps, comme Dieu le fait souvent avec ses fêtes, il veut rappeler la première délivrance, la première abondance, celle où ils ont été délivrés d'Égypte. Et donc, ils sont appelés à aller vivre dans une cabane qu'ils vont construire à l'extérieur pendant une semaine pour se rappeler de cette période de l'Exode où ils ont été délivrés d'Égypte. Et ils ont dû voyager pendant toutes ces années, n'ayant pas vraiment de maison, vivant dans des tentes. Mais se rappeler ce symbole, c'était un symbole de délivrance et un symbole de chemin en route pour la terre promise. Et donc, chaque année, ils étaient appelés à ressortir leur pop-tent, à aller s'installer dans la pop-tent avec les enfants, et puis les enfants de demander, « Papa, c'est super le fun, on fait ça chaque semaine. » Non! Une fois par année, c'est en masse. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour se rappeler que nous étions esclaves en Égypte et qu'un Dieu merveilleux a pris un peuple qui n'était rien, a jeté son dévolu sur lui, a déposé son regard sur lui, l'a aimé et l'a fait sortir de l'esclavage. C'est pour se rappeler tout ce pèlerinage vers la terre promise. C'est pour se rappeler que nous sommes un peuple sauvé, un peuple gracié, un peuple racheté. Et le soir, lorsque papa s'assoyait avec maman et les enfants dans la pop-tent à l'extérieur, ils expliquaient ces choses à leurs enfants. Maintenant, Néhémie fait un commentaire ici, le narrateur fait un commentaire absolument extraordinaire au verset 17. Et là, il faut se replacer dans leur contexte à eux pour comprendre ce qu'il est en train de dire ici. C'est vraiment beau et ça nous parle de Dieu. Ça nous parle de ce Dieu avec qui on peut toujours reconstruire, ce Dieu qui veut tellement vous faire grâce. Écoutez ce qu'il dit au verset 17. Il dit « Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et habita sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. » Comprenez ce qui est en train de se passer ici. La fête avait été instaurée après la délivrance d'une première captivité. Délivrance de la captivité en Égypte. Maintenant, Dieu leur avait dit, « Si vous êtes fidèles, je vais prendre soin de vous. Si vous êtes infidèles, je vais vous châtier. Et ultimement, vous serez envoyés à nouveau en captivité. » Et c'est ce qui s'est passé. Le livre de Néhémie, c'est la suite de cette deuxième captivité. Le narrateur nous dit ici que tous ceux qui étaient revenus de cette deuxième captivité sont maintenant dans leur cabane avec leurs enfants. Et ils expliquent le soir à leurs enfants. Savez-vous pourquoi on construit ça, les enfants? Au départ, c'était pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais pour moi qui suis parti de Suse, qui suis parti de la captivité sous les Perses et qui suis revenu ici, Laissez-moi vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu est tellement bon qu'il est prêt à reconstruire lorsque son peuple est infidèle. Non seulement il nous a sortis une fois de notre captivité, mais il est prêt à nous pardonner à nouveau. Et cette cabane-là qu'on a construite cette année, les enfants, représente non seulement la sortie d'Égypte, mais la sortie de cette deuxième captivité. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est le Dieu qui est toujours prêt à reconstruire. Et l'histoire d'Israël, c'est ça. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'une gang de cabochons qui passent leur temps à s'éloigner de Dieu, à se repentir et que Dieu pardonne. C'est ça l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'un Dieu qui est constamment prêt à pardonner et à reconstruire, et à pardonner et à reconstruire, et à pardonner et à reconstruire. J'espère que c'est ce Dieu-là que vous servez. J'espère que vous avez saisi que Jésus ne vous a pas seulement sauvé une fois, mais il vous sauve toutes les fois où vous faites des niaiseries. Que Jésus ne vous a pas seulement sauvé une fois pour l'éternité, mais qu'il est prêt à vous pardonner à chaque fois que vous péchez et que vous vous repentez. J'espère que vous servez ce Dieu qui n'attend que cette repentance pour reconstruire avec vous. C'est un Dieu extraordinaire. C'est ce Dieu-là que je sers. L'Évangile me rappelle ça tous les jours. Et c'est ça qu'eux autres étaient en train de fêter ici. Quelle confiance pour l'avenir! Parce que je ne crois pas, moi, que ces gens-là disaient « Nous ne pécherons plus. » Je ne crois pas que cette génération-là disait « Nous serons saints et nous ne pécherons plus. » Je pense que cette génération-là commençait à connaître son cœur et elle savait qu'ils allaient pécher encore. Mais à travers leur péché, à travers leur repentance et la grâce que Dieu avait fait à nouveau, en permettant la reconstruction des murs, en permettant la réinstitution de ces fêtes-là, ils étaient en train de découvrir le caractère de la grâce de Dieu, le caractère du Dieu qui pardonne. Ça, c'est mon Dieu. J'espère que c'est ton Dieu. J'espère que c'est ton Dieu. Une dernière chose que je veux qu'on voit dans ce texte qui est importante. Pour que la parole de Dieu console, il faut la comprendre. Je l'ai dit, le livre de Néhémie est un point tournant dans l'histoire d'Israël. Pour que la parole de Dieu console, il faut la comprendre. Autrement, peut-être qu'elle vous endormira, peut-être que vous dormez ce matin. Et vous avez besoin de comprendre la parole de Dieu. Peut-être qu'elle vous accablera si vous ne la comprenez pas. Ils étaient menacés de partir de là, accablés, écrasés par la parole de Dieu, seulement confrontés par la parole de Dieu, comme un miroir qui leur montre leur péché. Mais il faut la comprendre, parce qu'alors, elle apportera une consolation beaucoup plus profonde et vous amènera beaucoup plus loin. On assiste dans ce passage à une compréhension individuel de la parole de Dieu qui commence. C'est ça qui est en train de se passer ici. Tout le peuple est assemblé, hommes, femmes, enfants, tout le monde qui peut comprendre. Tout le monde est exposé à la parole de Dieu et tout le monde doit comprendre. Les enseignants se promènent parmi le peuple et expliquent à chacun. Parce que chacun veut comprendre la parole de Dieu personnellement. Et c'est vraiment un point tournant dans l'histoire d'Israël, d'accord? Ces préceptes-là étaient là dès le début, les pères devaient enseigner à leurs enfants. Je le sais, c'est vrai, mais jamais avant, comme dans ce moment-là, la parole de Dieu est apportée individuellement à chacun et chacun est appelé à comprendre la parole de Dieu pour être transformé. Maintenant, cette nouvelle relation avec Dieu qui se passe à travers sa parole commence ici. Mais elle va entièrement se réaliser et vraiment se réaliser seulement en Jésus-Christ. Et ça, c'est important que vous saisissiez cela. Voyez-vous, nous, on lit Néhémie, puis on veut apprendre des choses. Mais est-ce qu'on lit Néhémie comme avant la venue de Jésus ou après la venue de Jésus? Qu'est-ce que je dois retenir de ça? Je veux dire, Bastien serait content si je lui disais, en arrivant à la maison, « Papa, il a compris Néhémie, on rouvre une pop tent cette semaine, puis on fait du camping toute la famille. » Je dis, Bastien, il trouvait ça super cool. Je suis sûr qu'il serait d'accord. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que vous allez partir d'ici, vous allez vous construire des pop-tents dans votre cour, puis OK, Yannick, il nous a dit, là, c'est le temps, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, comme ça on va se souvenir qu'Israël avait été délivré. Non! Jamais de la vie! Nous vivons après la venue de Jésus-Christ. Et voyez-vous, cette relation que le peuple commence à avoir avec la parole de Dieu, où chacun veut comprendre, Bien, des prophètes avaient annoncé qu'un jour, chacune des personnes qui composent le peuple de Dieu comprendrait vraiment la parole de Dieu. On trouve ça sous le prophète Jérémie, entre autres, dans Jérémie 31. Jérémie annonce, en prophétisant, saisi par l'Esprit de Dieu, il annonce qu'un jour viendrait où Dieu ferait une nouvelle alliance avec son peuple, et en contractant une nouvelle alliance avec son peuple, il placerait dans le cœur de chacune des personnes de son peuple la loi de Dieu, afin que chacun comprenne la parole de Dieu. Non pas qu'on n'aura plus jamais d'enseignant, mais chacun va porter en lui l'Esprit de Dieu, va pouvoir comprendre avec une intelligence qui vient de Dieu les préceptes de la parole de Dieu. Jérémie avait annoncé cela. Tournez avec moi dans Hébreux 8. Je sais que je vous étire un petit peu ce matin. Il n'y a pas de dinde au four, la fête des mères, la semaine dernière. Et je ne vous garde pas pour 6 heures, c'est promis. D'accord? Je ne vous demanderai même pas de rester debout. Quelques minutes encore avec moi. Dans Hébreux 8. Dans Néhémie, il nous est dit que lorsque le peuple a compris ce qui était enseigné, ils sont allés servir Dieu avec joie et ils sont allés fêter. Ce moment de la compréhension de la parole a été un moment clé. Mais le prophète Jérémie avait annoncé qu'un jour viendrait où Dieu placerait sa parole dans le cœur de chacune des personnes qui croient en lui. Et une connaissance nouvelle serait donnée de Dieu. Et donc, ce qui est en train de se passer sous Néhémie pointe dans une direction d'une connaissance beaucoup plus grande et individuelle de la personne de Dieu et de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 8, verset 6, et je vais vous lire jusqu'au verset 13, l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de nous parler de ce que Jésus a accompli et de ce que Jésus nous a acquis à toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Écoutez bien ceci. Mais maintenant, il a obtenu, en parlant de Christ, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, une nouvelle alliance, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Et là, ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite Jérémie, dont je vous parlais tout à l'heure, Jérémie 31. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est Jésus-Christ qui a inauguré cette alliance par son sacrifice sur la croix, cette nouvelle alliance qui avait été prophétisée et annoncée. » Verset 9, « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Cette commémoration qu'ils fêtaient avec les tentes. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « Une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Voyez-vous, frères et sœurs, Jésus est venu inaugurer cette alliance par son sacrifice à la croix. En mourant sur cette croix, il offre le pardon à tous ceux qui placent leur foi en lui, et au moment où nous plaçons notre foi en lui, nos péchés sont pardonnés et l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Une connaissance nouvelle nous est donnée de la parole de Dieu. Vous savez reconnaître ces choses si vous êtes chrétien, parce que vous parlez de l'Évangile avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui lit la Bible, et c'est complètement fermé devant lui, c'est opaque, il ne comprend pas ces choses. Vous lui parlez de la grâce, et tout ce qu'il voit, c'est la croix sanglante. Vous lui parlez de la grâce et tout ce qu'il voit, c'est le Dieu juge qui condamnerait ceux qui ne se repentent pas. Mais si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Esprit de Christ, son Esprit habite en vous et vous avez cette connaissance de Dieu, cette connaissance extraordinaire. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enseignants, au contraire, il y en a partout dans le Nouveau Testament. Mais ce ne sont pas des enseignants qui vont vous dire « connaissez Dieu ». Vous le connaissez parce que vous l'avez reçu, parce que vous avez reçu Jésus-Christ. Je termine avec un dernier passage. Tournez avec moi dans Jean 7, et je ne peux pas faire autrement que de tourner là. À peu près cinq siècles, après le passage de Néhémie qu'on a lu ensemble ce matin, d'accord? Jean 7. Cinq siècles environ après Néhémie 8, le peuple d'Israël est encore en train de fêter cette fête, des tentes, des cabanes. À l'époque où Jésus est en train d'exercer son ministère, Israël fête encore au moment prévu dans l'année cette fête des cabanes, qui leur rappelle leur sortie d'Égypte. Jésus se présente lors de cette fête et au dernier jour de la fête. Regardez avec moi le verset 37 et verset 38-39. Jésus se présente à cette fête et au dernier jour de la fête, voici ce que Jésus va déclarer. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Cette soif que le peuple d'Israël a eue sous Néhémie pour entendre la parole de Dieu et s'approcher de Dieu et le connaître davantage ne pourrait jamais être assouvie comme au jour où Christ est venu. Parce que Christ est la parole de Dieu. Il est la parole qui est venue marcher parmi nous. Et si j'ai soif de connaître Dieu, si je lis les Saintes Écritures et je dis, « Seigneur, j'ai besoin de te connaître davantage. J'ai besoin que tu m'amènes plus loin. J'ai besoin d'une reconstruction plus profonde, Seigneur. » C'est à Christ que vous devez aller. C'est à Christ que vous devez aller. C'est vers lui constamment que vous devez vous tourner. Au verset 38, dans Jean 7, il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelque temps plus tard, Christ va être crucifié, il va mourir sur la croix, il va être mis en terre, il va ressusciter trois jours plus tard. Et il y a tous ceux qui vont venir à lui, tous ceux qui ont soif de Dieu, tous ceux qui ont soif d'une œuvre profonde dans leur cœur. Tous ceux qui vont se tourner vers Christ, Christ va donner son esprit. Il pardonne les péchés, il donne son esprit, et son esprit commence à nous donner une connaissance nouvelle, une compréhension nouvelle de sa parole. Si tu ne connais pas personnellement Jésus-Christ, et si Dieu est en train de placer dans ton cœur une soif pour le connaître, pas une soif de religiosité, pas une soif de donner bonne conscience en allant dans une église le dimanche matin, pas une curiosité pour la culture chrétienne, une soif qui vient de ton cœur, de ton âme, une soif qui dit « j'ai besoin de Dieu ». Si Dieu a commencé à faire naître cette soif-là en toi, c'est à Christ que tu dois te tourner. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui va pouvoir opérer cette reconstruction profonde dans ton âme, restaurer ton âme et te faire entrer dans la vie éternelle. Il va te donner une connaissance nouvelle de sa parole et tu vas lire et comprendre les Écritures comme tu ne les as jamais lues auparavant. Maintenant, je m'adresse à vous, frères et sœurs. À vous qui seriez tentés de lire Néhémie et d'essayer de vous réformer. Voyez-vous, la tentation est toujours là dans la vie chrétienne, d'essayer de se réformer soi-même. Vous lisez les Écritures, vous venez ici, puis vous avez une espèce de Jesus freak en avant qui est toujours en train de vous dire qu'il faut vivre puis mourir pour Jésus, puis c'est lourd de venir ici parce que vous avez toujours devant vous ce sentiment que why, I'm not up to it. Je suis pas en train de marcher à la hauteur des attentes de Christ envers moi. Et là, vous avez cette tentation en lisant les Écritures, en écoutant les messages, de dire, je vais réformer ma vie. Néhémie l'a fait. Je vais réformer ma vie. Je vais appliquer ces principes dans ma vie. Oh, de grâce, ne faites pas ça sans courir premièrement à Christ. Ne faites pas ça. Vous allez être tellement malheureux. Je vous le dis, vous allez abandonner cette assemblée. Vous allez partir d'ici. Vous allez dire, ce gars-là en avant, il est malade. Il est malade. Il nous demande de vivre comme à une autre époque. Il comprend pas qu'on peut pas vivre ces principes-là aujourd'hui. C'est impossible les vivre si vous ne courez pas à Jésus-Christ. En courant à Christ, vous allez être confronté par vos péchés, mais vous allez être confronté à sa grâce. Vous allez être confronté à la grâce qu'il y a là. Vous allez aller puiser en lui le pardon nécessaire pour ne pas être seulement confronté par la parole de Dieu, mais consolé par la parole de Dieu. Consolé par ce pardon qu'il vous offre à tous les jours, cette présence qu'il vous offre de son esprit. Et alors sa parole va redevenir vivante sous vos yeux. Sa parole va redevenir vie pour vous. Vous allez la lire, éclairé par l'Évangile, désireux de vivre ses préceptes et de reconstruire avec lui. Frères et sœurs, si Dieu a placé sur votre cœur un projet de reconstruction, même si c'est un petit projet, ne le méprisez pas. Ça se peut très bien que Dieu s'en serve pour partir un effet en chaîne. Et d'autres choses vont se passer beaucoup plus profondes. Si vous voulez aller plus loin, vous devez vous tourner vers la parole. La parole va vous bouleverser. La parole va vous bouleverser, elle va vous confronter. Vous allez être troublé, vous allez avoir envie de la fermer après une première lecture et dire c'est trop lourd, c'est trop de culpabilité. Courez à Christ. Courez au Seigneur Jésus. La consolation nécessaire pour vivre les Saintes Écritures, pour s'approcher de Dieu, se trouve auprès de celui qui a les paroles de la vie. Vous allez pleurer sur vos péchés. Vous allez pleurer sur vos péchés. Mais vous allez vous relever rapidement, saisi par sa grâce, et vous allez dire, « Seigneur, j'avance par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, j'ouvre encore ta parole. Transforme-moi. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te demande une chose ce matin, je te demande de m'accorder la grâce personnellement comme prédicateur, comme enseignant de ta parole, de toujours prêcher l'Évangile, Seigneur. Que tout ce que j'apporte à ton peuple ne soit pas condamnation, fardeau, loi, Seigneur, mais au contraire, que ce soit vie en Jésus-Christ, que ce soit vie en penchant les regards sur ta parole, mais toujours à la lumière de l'Évangile, Seigneur. Car sans ton pardon, sans ta grâce, Seigneur, qui pourrait s'approcher d'un Dieu trois fois saint? Qui pourrait ouvrir les Écritures et en tirer, Seigneur, des préceptes de joie, des préceptes de sainteté, des préceptes d'encouragement, Seigneur, des préceptes pour réformer, Seigneur, une vie des fois tout croche? Seigneur, je te prie de fortifier nos cœurs, Seigneur, et produis, Seigneur, un effet en chaîne autour de nous. Que quelques-uns parmi nous, Seigneur, se lèvent et avancent avec toi par la foi, ne méprisant pas les petits commencements, Seigneur, mais sachant, ô Dieu, que même avec la reconstruction de murs, quelque chose de bien matériel, Seigneur, tu peux faire une œuvre beaucoup plus profonde. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Tu es notre joie, tu es notre vie, Seigneur. Viens nous transformer. Amen.